Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à Euphonia pour ce bivouac en public autour de Christophe Modica, photographe, musicien, artiste sonore. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Je vous rappelle peut-être en deux mots qu'un bivouac, c'est un espace-temps d'une heure à peu près qui est confié à un artiste et la seule règle est qu'il peut faire ce qu'il veut. Une liberté que Christophe a mise à profit pour nous faire écouter une pièce qui vient tout récemment de lui valoir le prix découverte de la SCAM, une pièce qui est intitulée 1968 secondes d'intimité et 30 secondes de silence. On se retrouvera après l'écoute de cette pièce où l'histoire est avant tout une histoire d'amour, pour quelques mots, peut-être des mots d'amour ou d'amitié en tout cas, certainement. On découvrira ensuite un autre aspect du travail de Christophe Modica, celui de performeur sonore, avec un moment de création live qu'il va nous proposer. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, 1968 secondes d'intimité, suivi de 30 secondes de silence.
J'ai demandé à mes parents de me parler du mois de mai 1968.
De mai 68. Oh là là.
Qu'est-ce qu'il faut que je te dise de mai 68? Bon, mai 68, en fait, je fréquentais maman.
Pour moi, mai 68, tu vois, c'est un événement historique, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme cet événement historique. Ce qui s'est passé, moi, en 68, c'est que j'ai connu ton père. C'est là que j'ai connu papa.
De ça. Je me rappelle beaucoup de ça.
Juste avant que ça commence.
C'était la période où on se connaissait.
Donc, moi... voilà, la rencontre avec José, c'est... Après, derrière, il y a mai 68. C'était un peu le fond de notre histoire. Mais les choses importantes pour moi à ce moment-là, ben, c'était ça. J'ai tombé amoureuse. Alors, derrière, il y avait tout ce qui se passait. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que j'étais vachement embêtée parce que il y avait la grève des bus et que papa, quand on ne pouvait pas se donner rendez-vous parce qu'il avait du mal, il n'avait pas la voiture à ce moment-là. Il
et donc, bien entendu, je n'avais pas la voiture.
Et voilà.
Bon, comme toujours, quoi. Descendu à pied en bas. Et après, j'ai accompagné avec le train pour les Égalades. Hein. Et donc, bien entendu, je n'avais pas de voiture. Bon, comme toujours, quoi. Il s'est à pied en bas. Et après, j'ai accompagné avec le train pour les Égalades. Hein.
Tu vois, comme quoi on voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Hein. Mais bon, à ce moment-là, je l'ai vécu comme ça. Comme une période un peu. Et je me disais, mais mince, juste à moi, ça m'arrive. Ce qui s'est passé, moi, en 68, c'est que j'ai connu ton père. En 68, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Mais j'étais pas sur les barricades. Mais j'avais envie de changer le monde quand même. Hein.
Donc, sinon, je me rappelle. Les événements, je ne me rappelle pas vraiment beaucoup. Je ne m'intéressais pas beaucoup. Puis, vu que je fréquentais, donc, je n'avais pas la tête aux événements. ma tête était plutôt du côté de ma chérie. Normal, hein. 68, hein, c'est ça. Hein. Pour moi. Hein. Donc la seule chose que je me rappelle, c'est ça, c'est ce petit truc de... Bon, ben voilà, il n'y avait pas de transport. Donc, ça ne nous empêchait pas de sortir quand même. Hein. On descendait à pied, à l'époque, on marchait. De ces morts, là-bas, c'était facile pour aller jusqu'à la Calabria. À une demi-heure, on arrivait. C'était en bas, pof. Et voilà. Et après, on remontait, bon... Ah ben, ça c'était surtout le 1er mai qu'il n'y avait pas de transport. Mais après, il y avait des transports quand même en temps normal. Hein. Et même fin, je pense que cette fois-là, bon, il n'y a que ce truc-là, mais les événements, 68, bon, je me rappelle quoi, des barricades à Paris, comme parler, quoi. Mais on n'avait pas de télévision, le poste, hein, on n'écoutait pas beaucoup, il ne s'intéressait pas tellement. Alors ça fait qu'on était moins au courant. Ouais, on avait le journaux, les magasins, bon, on lisait les journaux, mais... Ça m'a, j'ai jamais trop été intéressé à tout ça. Moi, en gros, 68, pour moi, c'est l'année de bébé rose dans les bras de la tante, de ma tante, chérie. Surtout ça pour moi. Voilà 68. Ah ben, en 68, j'avais tout simplement 27 ans, puisque je suis né en 41. Donc c'est facile, hein. J'avais 27 ans. J'étais dans la fleur de l'âge.
Non. Non, on pensait à aller se promener, à parler, tu vois, on parlait déjà du prénom de notre premier enfant, mais là, ce que je te dis, pourtant, ça c'est la vérité, c'est comme dans la chanson de Brassens. On avait trouvé Christophe, alors que ça aurait pu être une fille, je ne sais pas, non. Il s'appellera Christophe. On était des amoureux très classiques, quoi, voilà. Ce qui s'est passé en arrière-fond, dans le fond, non, on n'en parlait même pas, quoi. Et ouais, c'est vrai. C'est tout bête, hein, c'est pas... C'est pas original, mais c'est comme ça.
Ah ouais, je travaillais déjà, sûrement. J'étais au magasin, ça a travaillé. Depuis l'âge de 15 ans, je coupais les cheveux. Donc ça ne changeait pas beaucoup pour moi. Le travail, c'était bon, jusqu'à 9h du soir. Avec mon père, il n'était pas souvent là. Il disait que c'était pour me débrouiller, mais lui, ça l'arrangeait parce qu'il allait faire sa belote. Alors hop, et bien, il s'est tout seul à travailler. Ah ouais. J'étais pas dans un coco, moi. Et mon père, moi, tu sais, moi, j'avais pas de salaire, j'avais rien. Pas vraiment, disons que je comprenais un peu, parce que je savais que c'était une histoire de... toujours pareil, de pouvoir d'achat, comme maintenant. Pouvoir d'achat, le salaire, parce que c'était des trucs comme ça, en gros. Mais je pense surtout quand même que c'était surtout... Enfin, maintenant avec du recul, mais à l'époque, non, je ne m'intéressais pas trop. Maintenant avec du recul, je pense surtout que c'était plutôt politique, hein, communiste surtout, qui avait foutu la merde pour faire tomber le pouvoir, faire tomber De Gaulle. Enfin, moi, c'était vraiment politique, quoi, contre le pouvoir qu'il y avait à l'heure actuelle, De Gaulle. Quoi. Mais en fait, je ne m'intéressais pas beaucoup, moi, à l'époque. Hein. Moi, tu sais, l'époque, 68.
Moi, ce que je sentais surtout dans la révolte que j'avais à cette époque-là, c'était surtout la révolte par rapport au, à tout ce qui est conformisme. Et, il me semblait, peut-être je l'ai idéalisé, que c'était, il me semblait que c'était un mouvement pour vouloir une société plus vraie, plus simple dans les relations humaines, plus, moins injuste, plus, moins, comment dire, moins... Voilà, il y avait trop d'écarts, mais ça, de toute façon, ça existe toujours, quoi. Entre bon, les riches et les pauvres, toujours pareil, quoi, les injustices, quoi, voilà. Ouais, pour moi, c'était ça, surtout. Il y avait les mouvements de grève, et papy il faisait la grève, et mamie, elle rouspétait, parce que le moi, qui était déjà maigre, il était encore plus maigre. Et qu'elle disait toujours, et maintenant je m'en rappelle, et elle avait raison. Elle disait, mais ce qui n'est pas juste, c'est que vous faites grève, et vous obtenez 10% d'augmentation, mettons. Mais ceux qui travaillent, les ingénieurs qui travaillent à la SNCF, et qui ne font pas grève, ils ont les mêmes augmentations, et eux, ça leur fait une belle somme, 10%, alors que nous, ça ne nous fait rien. Et ça, elle trouvait que c'était vraiment une grosse injustice, et je crois qu'elle avait raison. Ma mère, ce qu'elle regardait, c'était ça, hein, quand elle arrivait à boucler la semaine pour nous faire manger, elle était contente, et voilà, et elle râlait toujours pour les à cause de ces injustices-là, quoi. Voilà. On était mal logés aussi, hein. On habitait à la gare de Saint-Louis, après quand on est parti du boulevard de la Corderie, où on était entassés les uns sur les autres, on vivait comme les Algériens maintenant, on était des immigrés italiens. Et après, la SNCF, on payait un tout petit loyer, mais on était logés à la gare. Mais bon, c'était pas non plus, il n'y avait pas de toilette dans la maison, pas de salle de bain. Bon... On était logés dans des conditions quand même... Moi, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Pour moi, quand on est venu du boulevard de la Corderie à la gare, pour moi, c'était un palais, parce qu'au boulevard de la Corderie, on n'avait même pas les pièces à côté. Tandis que là, à la gare, on avait de la cuisine, on avait dans la chambre. Pour moi, c'était... Je ne me sentais pas malheureuse, quoi. Je ne me sentais pas mal logée. C'est avec le recul maintenant que je me dis, mais comment on a fait pour vivre là-dedans, quoi. Avec les trains qui passaient, il y avait tout qui tremblait. C'est vrai, hein. Mais enfin, on n'était pas malheureux quand même. Enfin, quand même, j'entendais ma mère qui quand même était assez, des fois, énervée. Ouais, elle rouspétait un peu. Elle était les discussions à la maison, c'était surtout, ça tournait autour des problèmes économiques. Papy, c'était... oui, je pense que... Enfin, oui et non, parce que papy, il était révolté des injustices, et il les subissait, les injustices. Hein, il avait... Puis, point de vue salaire et tout, je ne peux pas dire que c'était pas bizarre. Hein. Donc, il avait des raisons, il y avait des choses qui étaient sincères, mais à la fois, il était un peu dépassé par tout ça, quand même. Il était dépassé, donc il se laissait... Bon, la CGT, c'était le syndicat à la SNCF, donc automatiquement, il fallait adhérer à la CGT, à la SNCF, sinon... Et mamie, à la maison, ma mère, je m'en souviens, des fois, elle le disputait quand même, hein, parce qu'elle, elle disait, oui, c'est bien beau, les grèves, mais à la fin du mois, parce que, voilà, elle, il fallait qu'elle tire, hein. Donc, ça faisait un peu des disputes, des fois, à la maison. Parce que, c'était bien beau, la grève, mais il fallait manger aussi. Mais papy, lui, il faisait comme ses collègues, il suivait le mouvement.
Non. Manifester où ? À quoi ? Non, il travaillait plutôt dans le magasin. Ah oui, ce que je me rappelle, par contre, oui, c'est qu'un jour, ça, je m'en souviens, un jour, on a fermé le magasin. On a fermé. On a voulu faire comme tout le monde. 68, c'était le moment des grèves. Tu sais ce que c'était. Alors, on a suivi le mouvement, on a fermé le magasin. On a fait figure de fermer le magasin, mais les quelques qui venaient, on les faisait passer par le couloir, par derrière. Ça fait que finalement, on travaillait quand même. Mais on travaillait avec la porte fermée. Mais, monsieur, vous êtes pas, vous êtes fermé, passez par le couloir. Passez par le couloir. Dans le couloir, on avait une petite porte qui rejoignait le salon. Et hop, on les faisait passer. Ça fait que finalement, on travaillait quand même. Mais vis-à-vis des gens, on était fermés. Parce que bon, les coiffeurs, c'était des métiers, profession libérale. Parce que c'est l'artisanat, je ne suis pas comme les salariés. Hein. Même bien, ce jour-là, on avait eu l'ordre de fermer par le syndicat. On a fermé, mais en fin de compte, on travaillait quand même. Parce que les clients, en fait, personne n'a travaillé. On n'a jamais eu autant de clients de la RATVM à venir se faire couper les cheveux. Tous les clients qui étaient en grève, ils n'avaient rien à faire. Alors, coiffeur, tu parles, ils étaient tranquilles pour venir. Ça fait que nous, on travaillait plus que les autres. C'est ça, 68. C'est ça, 68. Ben, pourquoi on n'a pas ouvert? Parce que ma foi, on a voulu faire comme les autres. Hein. Parce qu'en fait, ce jour-là, c'est mal ramé, tout était fermé. En dehors de ça, tu sais, les événements, on ne suivait pas tellement. On a suivi le mouvement, quoi. Mais ce que je me rappelle, par contre, mon collègue Salvecha, oh putain, alors ça, je me rappelle, devant l'école libre où j'allais, moi, la rue de Messorel, à Saint-Malabé, il y avait la queue de voiture pour l'essence. Alors, ça démarrait de la rue de Messorel, toi, tu connais pas bien Saint-Malabé. La rue de Messorel, qui était à la place Caire, ça faisait le tour jusqu'au chemin de Saint-Julien, et ça redescendait par le boulevard Solan pour aller à la pompe à essence. Et je me souviens, mon collègue Salvèche, quand je l'ai vu faire la queue pendant une heure et demie pour avoir 100 francs d'essence. Mais pas 100 francs. Parce que c'était limité, on donnait l'essence au compte-gouttes. Il n'y en avait pas beaucoup. Ça, c'était 68. Ça, je me rappelle vraiment. Moi, je n'avais pas de voiture, mais j'ai vu les autres faire le cinéma avec leur bagnole. Ça, alors, c'était vraiment historique. Hein. Si j'avais un appareil photo, j'aurais pris la photo.
Ça, j'en suis sûre, et ça continue. Ça, j'en suis sûre. Absolument. Et qu'il n'y a pas souvent des gens très courageux pour prendre la défense vraiment du petit, de celui qui est dans la détresse. Eh bien... Dans ce monde, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui ont le plus besoin d'être défendus, les tout petits, petits, petits en bas de l'échelle, ils sont toujours écrasés. On ne les entend pas, ceux-là. Ils sont sans voix. C'est vrai que je suis émue de parler de ça. surtout à mon père. Il était comme moi, tu vois. Il supportait pas les injustices, mais il était dans son coin tout seul. Et il n'osait pas le dire. Et il avait un cœur énorme. C'était que de l'amour, papy. Et pourtant, tu sais, il n'a pas eu la vie facile. Il a beaucoup souffert. Et surtout, maintenant, je comprends ce qu'il a souffert par rapport à la guerre, quand il a été déporté en Allemagne et tout. Il était très sensible et il a beaucoup souffert, papy. Mais c'était quelqu'un de... Voilà, il n'avait pas la souffrance, comment dire, c'était pas quelqu'un de révolté. Il était doux, il était révolté au fond de lui, peut-être, mais il n'a pas été de ceux qui sortaient dans la rue pour crier. Tu vois, là, tu m'as soulevé des... Tu m'as soulevé des fibres qui me font vibrer, hein, Christophe. J'étais quelqu'un de timide, j'osais pas parler, je me sentais toujours moins que les autres. C'est pour ça que je serais pas rentrée dans un mouvement politique, je suis pas partie sur les barricades, parce que moi, j'étais dans mon coin. Déjà, j'étais heureuse quand on me regardait pas, parce que j'étais complexée. Donc, je restais dans mon coin. Et tout ce que j'avais de révolte, c'était quand même assez en moi, quoi. Je ne le faisais pas trop voir. Même si après je me frottais les mains, j'étais contente de voir que les choses changent, mais je n'y participais pas. Mais je ressemble donc beaucoup à papy, hein, de ce côté-là. Je suis comme lui parce que quand les choses me touchent beaucoup, j'arrive pas à en parler, quoi. Ça me... Voilà. Et puis voilà. Mais j'étais quelque part, c'est vrai que j'étais beaucoup complexée, donc parce que je craignais le regard des autres. C'est vrai que à l'école, j'étais pas forcément. Ça devait peut-être se voir que je n'étais pas riche ou que tu vois, j'étais pas toujours regardée comme hein.
Le soir, il sortait. Ça, quand tu travailles toute une journée dans ce magasin, à me fermer, c'est normal. Moi, il me disait, sors, va faire un tour, va au cercle, tout ça. Il avait raison. Dans le fond, parce que des fois, je vais aller me coucher de suite après le travail, pas respirer un plein air et tout. Il me dit, ça te fait du bien, sors. Maintenant, il me dit, ok, je le comprends. C'est vrai qu'en travaillant, je comprenais que c'était enfermé et tout. Alors, lui, bien entendu, lui, une fois qu'il avait fini la journée, hop, il partait. Il sortait. Mais sa femme, hop, oh, à 9h30, déjà, à 9h, elle commençait à bailler. À 9h30, elle était couchée. Elle ne pouvait pas comprendre que lui sorte. Ça, c'est une chose que... Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui fermait la porte à clé de la chambre. Alors quand il arrivait, il était obligé de passer par ma chambre à moi pour entrer dans la sienne, parce que les vieilles baraques, les vieilles maisons, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par ma chambre, il tapait à la porte. Marie, ouvre-moi. Non, je te vois pas. Marie, ouvre-moi. Non, d'où tu viens? Eh bien, je vais faire un tour. Va, tu as qu'à retrouver d'où tu viens. Non. Et il clouait la porte. Hein. Il empêchait d'entrer dans la chambre. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, moi, j'avais un lit à deux places. Hein. Il se couchait avec moi. Il se mettait dans mon lit, je le sentais, je se glissais. Oh putain, et mon père, il dort avec moi. Oh, fâché, quoi. Alors, dans la nuit, il rompait comme un machin. Papa, tu rompes, je le bougeais. Eh non, je ne rompe pas. Okay. Oh putain. Alors, pour dormir, tu m'as compris. Hein. Il n'y avait rien à faire. Hein. Sa femme, hop, il avait cloué la porte. Hein. Il n'y avait pas le choix. Et hop, et ça, c'était le coup classique. Hein. C'était pas tous les soirs, mais c'était souvent.
Non, parce que j'étais pas... comment dire, je me sentais un peu à part quand même. Moi, j'étais assez... À ce moment-là, j'étais un peu timide dans mon coin. Moi, j'étais pas quelqu'un qui était dans la vie... Non, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Je voyais les événements... Mais je me sentais pas quelqu'un qui pouvait y participer, ou j'étais peut-être trop timide, trop, j'étais pas engagée dans, même, tu vois, les étudiants, déjà, ils vivent ensemble, comment dire, alors que moi, j'étais plutôt dans mon coin, un peu à part, un peu, j'arrive pas à trouver. Ben oui, j'étais complexée quelque part, voilà, complexée. J'avais pas l'impression que je pouvais pas avoir une part à prendre dans la société, je n'étais pas assez importante, ou voilà, je regardais les choses se passer passivement, quoi. Moins, comment dire, moins... Tu vis un peu dans un ghetto quand tu n'es pas tout à fait... À l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était parce que je faisais partie d'une catégorie sociale, il faut le dire, assez inférieure. Et je ne m'en rendais pas compte. Maintenant, je m'en rends compte. Je ne te sens pas comme les autres. Ça, je l'ai ressenti, moi, ça. On n'est pas habillé tout à fait comme les autres. Ou même dans le travail, moi, j'ai eu ce regard un peu... De dire... Ce regard hôtel, j'étais pas très... J'étais habillée normalement, j'étais propre, mais enfin, bon... voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a cette timidité qui fait que tu te mêles pas trop...
Mais j'ai toujours les magnétos, chérie. Mais tu l'as vu la fois que je t'avais donné. Tu m'avais enregistré toutes les bandes. Je sais pas si je l'ai encore, les bandes. Ça marchait pas bien, il y avait un faux contact. On devait faire une soudure. Donc, je n'ai pas arrivé à souder moi non plus. C'était difficile pour retrouver des trucs. On était allé là-bas même chercher des pièces au Colioto, là. Tu sais, celui qui fait le grossiste, là. Il est toujours ce magasin qui vend les trucs là pour tous les appareils, là, tout ça. On l'a pas trouvé. Ben ouais. Ah oui, c'est son anniversaire. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, je sais pas. Je sais rien, je pourrais pas te dire ça. Il faudrait que tu poses la question à ton beau-père, que lui, là, il a connu mes 68 plus que moi, puisqu'il y était. Lui.
Alors, en mai 68, je travaillais. Il n'y avait pas longtemps que je travaillais. J'étais, mais je n'avais pas de poste fixe. J'avais des contrats de 6 mois. Tout ça. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler quand je me suis mariée, c'est-à-dire l'année d'après, en 69, parce que j'avais un contrat qui finissait. Et que 3 mois après mon mariage... j'avais ce que j'ai en face de moi, là, maintenant. La plus belle chose de ma vie, enfin, l'une des deux plus belles choses de ma vie qui est arrivée, c'est toi. Voilà. Donc, voilà, après, j'ai pu penser du tout à chercher du travail, parce que, voilà, le plus grand bonheur du monde m'est arrivé.
1968 secondes d'intimité, suivies de 30 secondes de silence par Christophe Modica.
Merci beaucoup.
Un regard sur la révolte ou la révolution avec les yeux de l'amour. L'amour d'un jeune couple, à l'époque, formé par tes parents. Et puis l'amour d'un fils, aujourd'hui, pour eux, qu'on sent tout au long de cette pièce. Une pièce que tu as réalisée quand ? En 2008 ?
Oui, c'est une pièce que j'ai réalisée au mois d'avril 2008. En fait, se profilait à l'horizon le mois de mai 2008, qui était une sorte d'anniversaire, de commémoration de mai 68. Et puis on en parlait énormément dans la presse, on entendait... un peu tout et n'importe quoi, et en même temps un petit peu toujours les mêmes choses. Et donc j'ai eu envie de demander à mes parents, en fait, qui me parlent de ce moment-là, de mai 68. Alors je savais très bien qu'il allait en sortir quelque chose de différent de ce qu'on entendait de la bouche de Daniel Cohn-Bendit, des politiques ou de toutes les personnes qu'on pouvait entendre dans les médias. Et en même temps, j'avais absolument aucune idée de ce qui allait en sortir vraiment. Donc j'ai pas mené d'entretien, j'ai juste posé une question, c'est parlez-moi de mai 68. Je l'ai fait séparément, une fois avec ma mère, une fois avec mon père. Et voilà, il en est sorti cette pièce radiophonique.
Une manière de démontrer que la meilleure façon de regarder l'histoire au fond, c'est pas forcément d'en regarder les grands événements, c'est de la regarder au travers des relations humaines. Et Dieu sait si l'humanité est quelque chose qui t'importe, aussi bien dans ta vie que dans ton travail. En tout cas, c'est comme ça qu'on te connaît et on te connaît sur cette radio depuis quelques temps déjà. Je crois que tu es venu ce soir accompagné précisément par ceux qui sont les principaux protagonistes de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire tes parents. Et peut-être que tu pourrais nous les présenter et éventuellement échanger quelques mots avec eux. Tu as souhaité d'ailleurs, je le précise, que ce moment d'écoute à l'occasion de ce bivouac, que ce soit un moment d'échange, ça aussi, ça te ressemble bien. Donc ça sera peut-être l'occasion de démarrer un échange et après de le poursuivre avec tous ceux qui sont venus ce soir nous rejoindre.
Oui, effectivement, mes parents sont là. Je vois pas ma mère, mais j'imagine qu'elle est très émue, bien sûr. Et oui, ça me semble important que ce soit un moment d'échange parce que c'est important de faire écouter une création quelle qu'elle soit de toute façon en public et de pouvoir échanger autour de ça. Et parce qu'aussi suite à l'écoute de cette pièce, beaucoup de gens m'ont écrit en me disant on est ravis d'avoir rencontré tes parents, on a très envie de les rencontrer en chair et en os. Et à chaque fois revenait cette envie de les rencontrer. Et voilà, c'est pour ça, je leur ai tendu un peu un traquenard en fait, parce qu'ils s'attendaient pas vraiment à ça. Je leur ai dit que je faisais une émission de radio et que je les invitais à participer. Et voilà, je crois que c'est important en fait qu'ils soient là, de les rencontrer. Ma mère m'a souvent posé la question après avoir fait cette création. Elle m'a souvent dit, mais qu'est-ce qui les intéresse ? Enfin, il y a rien d'intéressant quoi dans notre vie. C'est une question qui est souvent revenue, donc j'ai peut-être envie de vous la poser ce soir en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette tranche de vie là que je vous propose ? Si quelqu'un a envie de prendre la parole.
Merci d'abord Christophe, parce que c'est là c'est en titre personnel. Je suis toujours très touchée quand on entend. Les gens qui nous ont fabriqués et qui parlent eux-mêmes de ce qu'ils ont fabriqué. Je trouve que c'est des moments qui sont très rares, auxquels on pense pas. Pourtant, on travaille en plein dans la radio. Je sais que c'est des choses qui sont hypersensibles et difficiles à choper comme ça, à attraper, parce que c'est des moments très précieux. Moi, je reviens juste sur ce que, une petite chose parmi d'autres, hein, que disait ta maman. Vous disiez quelque chose qui m'a encore touchée. Vous parliez des 100 voix. Et voilà, ça fait partie de cette émotion à l'histoire, de cette émotion à des événements, quels qu'ils soient. Cette capacité de dire, de mettre des mots sur des choses qui se passent, même si elle dit les vivre passivement. Le fait de les nommer, de les qualifier ainsi, c'est déjà une façon de les faire exister très fort. C'est pour ça que la radio existe aussi, j'y crois beaucoup. Et donc, et c'est sans voix, moi ça me rappelle une histoire d'enfants avec lesquels j'ai travaillé qui parlait des non-nommés de l'histoire, qui faisait bien la différence avec les anonymes, hein, parce qu'on, généralement, dans les médias, on parle des anonymes. À ma connaissance, personne n'est anonyme. Une lettre peut être anonyme, mais un individu n'est pas anonyme. En revanche, son nom n'est pas cité. Donc, je rejoins ces deux façons de dire la sensibilité qu'on a au monde, et de la qualifier, et du coup, de faire exister ceux qui sont sans voix. Je pense, enfin, je trouve, on en trouvait une ce soir avec vous deux. Et grâce à toi, Christophe, merci.
Merci, Aline. Je sais pas, papa, tu as envie de dire un mot ?
Bon, qu'est-ce que je dois dire ? Il y a rien de spécial, hein. Il y a sûrement que, bon, c'était pas la même époque, on vivait sur une autre planète. On n'était pas trop branchés, mais bon. Avec elle, c'est plutôt une fille d'ouvrier, bon, on voyait des choses différentes. Moi, mon père était patron, bon, c'était pas pareil. On voyait différent. Bon, on a décrit ce qu'on ressentait, quoi, ce qu'on a vécu, quoi, c'est tout. Puis, moi, bon, faut.
Est-ce que vous ressentez une petite nostalgie de cette époque?
Tout à fait. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Surtout quand on est jeune. C'est normal, hein. Surtout ça. Mais la plus sensible, c'est ma femme, parce qu'elle était beaucoup plus sensible que moi. Mais vous savez comment c'est, les femmes sont beaucoup plus sensibles que nous les hommes. Hein. C'est normal. Vous posez la question.
C'est pas moi.
Moi, j'ai envie de m'adresser à mon fils et de lui dire que vraiment, c'est vrai qu'il m'a tendu un traquenard. Parce que je n'avais pas du tout l'impression que ça allait être, que ça allait passer à la radio. J'avais mon fils en face de moi et j'ai complètement oublié que j'étais enregistrée. Et c'est vrai que je suis un peu... Oui, c'est vrai, c'est une... Je suis un peu mise à nu, là, et je suis gênée de ça. Bon, mais bon, j'ai été sincère, hein, de toute façon, j'ai rien. Hein. Voilà, bon, c'est vrai que les événements de 68, avec le recul, moi, c'est pas quelque... J'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une occasion de changer la société, le monde, mais je suis quand même déçue.
Vous étiez optimiste à cette époque, justement, sur ce grand changement qui se profilait ?
Pas vraiment. Je pressentais que, bon, il y avait des grands mouvements comme ça, mais c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que les choses essentielles, on ne va pas les oublier ? Est-ce que ça ne va pas partir en vrille ? Et puis, et voilà.
On n'était pas informé comme maintenant, à l'époque. Je pense que Paris était beaucoup plus certainement plus informé que nous dans la province. Dans la province, on n'était pas beaucoup informé de ça. On voyait bon, les choses, on voyait les crèmes. Je suis ici, mais on ne pouvait pas s'imaginer que ça allait prendre une tournure à ce point-là. Et je pense que Paris, lui, certainement, ça devait se passer davantage dans les grandes villes. Quoi. Notre époque.
Mais en fait, je crois que c'est vrai qu'on est souvent amené à, après cette écoute, à parler de 1968, du mois de mai, des événements. Mais je crois que je regardais les gens, vous qui êtes là ce soir avec nous, Fonia, pendant la diffusion. Et j'en ai vu beaucoup qui étaient émus finalement. Et je crois pas que ce soit mai 68 qui soit émouvant dans cette histoire. Et si j'avais envie que mes parents soient là, si j'avais envie qu'on se rencontre, c'est parce que je crois que c'est en tout cas c'est ce que moi j'ai voulu faire. C'est vraiment une histoire humaine en fait qui effectivement se passe sur fond de mai 68, mais qui est l'histoire de leur rencontre, qui est l'histoire de leur jeunesse. Et il me semble que si ça touche, ça a encore quelque chose à voir avec l'universel. Avec ce que chacun vit encore aujourd'hui et pas forcément a vécu forcément en 68. Je crois que si on est touché, c'est aussi c'est que ça fait toujours écho à l'heure actuelle, à nos propres vies. Et je vois ici des gens de tous horizons, de tout âge, je crois intergénérationnels. Et voilà, c'est ça qui me semblait important en fait, plus que ce qui s'est passé en 68 ou comment mes parents l'ont perçu ou pas perçu. Finalement, à cette époque-là, je crois que la grande majorité des Français vivaient, et finalement, ils vivaient un peu comme aujourd'hui, quoi, et avec les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, les mêmes attachements, Voilà, c'est ça, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Et je sais pas, peut-être il y a certaines personnes là que j'ai vues vraiment vraiment émues pendant la diffusion. Peut-être qu'elles veulent partager ça, nous dire pourquoi elles étaient émues et qu'est-ce que dans leur comment ça résonne dans leur propre vécu. C'est difficile de parler. C'est difficile de parler de soi, mais.
Non, mais c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est, on dirait que l'événement de mai 68, c'est un prétexte pour chanter un grand chant d'amour à tes parents, Christophe. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ça qui était très émouvant. Parce que, ben, ils se sont rencontrés en mai 68, enfin, ou à avril, je ne sais plus, mais je crois que les événements, ils sont très loin de tout ça. Et il y a leur histoire d'amour, il y a ta naissance, etc. Je crois que c'est ça qui était. Pour moi, le plus émouvant, et ça rejoint ce que tu viens de dire. Mais ce que je voulais dire à ta maman, que ma mère faisait les mêmes réflexions. Elle disait, mais quand on aura une augmentation, nous, on aura fait la grève, et ceux qui n'auront pas fait la grève, ils auront aussi l'augmentation. Voilà ce que vous racontiez dans le reportage.
En fait, 68, pour moi, c'était... Voilà, dimanche, j'ai pu lisser ma journée, ma semaine de travail, et bien, j'avais rendez-vous avec ma chérie à la gare Saint-Jean, et pour moi, il y avait que ça qui m'intéressait. C'était hop, je courais vite, je mangeais vite pour pouvoir sortir avec elle, dimanche après-midi. Voilà, pour moi, c'est ça, 68. Hein, le reste, hein, j'étais pas dans la course. Hein.
Mais vous vous rendez compte que c'était exactement ça, l'esprit de 68?
Ben, ma foi, oui. pour moi, c'était ça. Hein, c'était voilà, fréquenter, et puis voilà, c'est l'envie de se voir. Même la neige, oui, même un tremblement de terre, n'importe quoi. Un jour, je suis allé voir ma maman à la neige, j'ai pris un taxi, je suis monté, elle m'a guetté à ma vie, elle m'a dit, oh, attends, vous ne croyez pas que j'allais venir à la neige. C'est ça, on court après sa belle, c'est ça. Il n'y a rien qui arrête. Même pas 68, ça ne m'a pas arrêté.
Je voulais dire aussi que quand moi j'ai réalisé cette pièce sonore, bon alors évidemment vous imaginez bien que j'étais quand même, ça a été un moment assez fort, j'étais très ému, j'étais en tête à tête avec mes parents pendant environ 15 jours de montage, ils étaient pas là mais ils étaient là, enfin bref c'était assez particulier et je m'étais posé aussi la question de l'autoportrait radiophonique en fait. Comment peut-on parler de soi à la radio sans en parler soi-même? C'était un petit peu une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et voilà, et je crois que ben, à travers eux, il y a aussi un exercice d'autoportrait que j'ai fait. Et je voudrais dire que j'ai reçu un mail d'une amie récemment qui me dit « Ça y est, maintenant, je sais pourquoi toi tu es un mec sympa, c'est parce que tu es pétri d'amour ». Et voilà, je crois que c'est vrai, et donc je leur devais bien ça. Quand vous me dites que cette création est un hommage d'amour à mes parents, c'est parce que je leur dois au minimum ça quand même.
Pétri d'amour par un beau boulanger, une belle boulangère en l'occurrence. Je te propose, Christophe, qu'on continue ce bivouac avec une autre proposition qui, elle, n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'on vient d'entendre, mais qui montre un autre registre de ton travail, un registre important aussi. C'est celui du performeur, c'est celui qui travaille le matériau sonore, mais qui a cette capacité de le travailler dans l'instant, le travailler en temps réel. Alors peut-être si tu voulais nous expliquer en deux mots ce que tu vas nous donner à entendre.
Oui, alors là on va passer à quelque chose de plus léger, de plus peut-être reposant aussi pour les oreilles. En fait, je mène tout un travail sur l'écoute, c'est-à-dire que j'attache énormément d'importance à l'écoute. Et pas seulement à l'écoute de la parole, mais à l'écoute du monde qui m'entoure, en fin de compte. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux micros à l'extérieur du studio. Bon, je pense pas qu'il y aura énormément de sons ce soir là qui va se passer. Donc j'ai fait une balade sonore, enfin j'ai fait une balade dans la friche en fait, d'une dizaine de minutes que j'ai enregistrée et que je vais diffuser dans son intégralité, sur laquelle je vais intervenir. Et vous proposer une interprétation de cette écoute, une interprétation de ce qu'on peut entendre en se promenant. Et c'est une sorte d'invitation à tendre l'oreille, en fin de compte. Voilà. Et donc, je vais vous proposer ça. de façon simple. Il n'y a pas de grande performance visuelle, il n'y a pas de grande prétention. Simplement un petit moment à tendre l'oreille et qui, j'espère, vous amènera peut-être en sortant ce soir, en rentrant chez vous, à écouter ce qui se passe autour de vous.
Bon, on te laisse rejoindre ton ordinateur et ta console dans quelques secondes. Vous écoutiez le bivouac de Christophe Modica, enregistré à Euphonia le 22 juin 2009. Réalisation Lucien Bertolina et Tony Regnault. Vous pouvez retrouver l'intégralité, ou quasiment, du travail de Christophe Modica sur son site internet www.cmodica.net.